De retour à l'eau showbiz de la belle visite aujourd'hui. Elle est venue nous voir, je pense que pour chaque album ou presque.
Oui.
Brigitte Saint-Aubin, comment vas-tu?
Ça va très bien et je suis ici avec grand plaisir.
Dans nos nouveaux studios.
Exactement.
T'es ma première invitée dans les nouveaux studios.
C'est beau.
Merci. Brigitte, nouvel album qui est paru il y a quelques mois déjà, qui est au-delà d'un album traditionnel parce que tu voulais un concept. À travers ça, il y a une œuvre théâtrale qui vient de ça aussi.
Exactement. En fait, ça s'est construit en parallèle, je dirais. C'est pas un album qui a été construit de manière conceptuelle, mais comme il est élaboré sur une période de ma vie qui a été très bouleversante pour moi, qui était la maladie de ma mère, son décès, la peine de mon père, le deuil, tous des thèmes... la séparation, le questionnement, l'identité, l'accompagnement dans la maladie. Ça a l'air bien down, mais c'est pas down, c'est bien rythmé quand même, tout ça, mais les thèmes que j'aborde. Et je me suis rendu compte, j'écrivais en même temps parce que j'avais plus à dire que les chansons, c'est comme des petites micro-histoires. Puis j'avais beaucoup, beaucoup à partager puis à dire, donc j'écrivais en même temps une œuvre qui était faite pour être dite théâtrale. Et tout à coup, je me suis dit, ben là, je parle un peu de la même chose sous deux formes différentes. Alors, pourquoi pas réunir les deux et en faire un projet global? Donc, mais l'album s'écoute en lui-même parce qu'il n'a pas été conçu nécessairement dans...
Au fil du temps, les
liens entre tous ces personnages-là, entre les thèmes, entre les histoires et tout. Mais c'est quand même un album qui s'écoute par lui-même, qui vit par lui-même, je dirais.
Il y a eu 6 ans entre les albums, parce qu'il y a eu un album où tu reprenais quelques-unes de tes chansons,
oui.
Mais il y a eu 6 ans entre les deux albums de création originale.
Oui.
Pourquoi ça a été aussi long? Il y a la maladie de ta mère, évidemment.
Oui.
Qui a probablement pris une partie de ton temps dans tout ça?
Qui a pris beaucoup, beaucoup de temps, effectivement. Et je savais pas, en fait. Je savais pas si j'allais faire un autre album. Il faut avoir quelque chose à dire. C'est assez ardu. C'est assez... faut avoir une bonne poussée intérieure pour mener à terme un album de nos jours, tu sais. Pour continuer, en fait, ouais. Pas juste le premier, c'est comme,
ce rêve-là, cette ambition-là,
j'y vais, j'explose, et tu sais, c'est, et pourquoi pas?
Tu veux dire, naïveté aussi, en quelque part?
Oui, à quelque part, oui, de pulsion du départ, je dirais. Puis, à la longue, ben quand même, tu sais, quand tu t'évolues dans un monde où il y a une multitude de projets, où l'effervescence est là, aussi la qualité, puis... À un moment donné, il faut que tu aies vraiment la pulsion, il faut que tu retrouves la pulsion pour dire « j'ai envie de déployer, j'ai besoin, en fait, même pas j'ai envie, j'ai ce besoin-là de parler et de m'exprimer à travers la musique et de déployer toute l'énergie pour aller du début jusqu'à la fin du projet et plus encore quand le projet est lancé, le faire vivre, avoir envie de donner une vie à un projet artistique ». Donc, je pense que j'avais pas, d'une part, l'énergie avant, mais aussi peut-être pas assez à dire à ce moment-là. Et quand est venu le temps après, à un moment donné, ça devient comme, ben je le fais, puis finalement, je sais pas si je vais faire un autre album, mais finalement, tu te rends compte que tu as 25-30 chansons, puis tu dis, ben là, j'ai au moins 2 albums, là, je vais sûrement en faire un.
Ça s'appelle Design intérieur.
Ouais.
Parce que c'est les études qui sont venues, à un moment donné, dans ton parcours à toi.
Oui, à travers toute cette période de questionnement.
Après le deuil,
exactement.
Est arrivé plein de questions, j'imagine.
Plein de questions sur...
sur la vie.
Bien, sur qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je vais être grande. tu sais, à un moment donné, c'est ça. Tu te débats beaucoup, puis tu as envie de... Justement, je me disais, coudonc, j'ai peut-être plus rien à dire, puis j'ai peut-être autre chose à faire ailleurs. Et qu'est-ce qui réunit? J'aime beaucoup le dessin, j'aime aussi les belles choses, et j'aime J'aime créer pour les autres. J'aime la rencontre aussi, puis je me suis rendu compte que dans le design, il y a la rencontre avec l'autre. Il a essayé d'identifier un côté casse-tête, essayer d'identifier le problème de l'autre et donner des solutions. Et comme votre nouveau studio, là, qui est dans les couleurs de la station. Et tu sais, j'aime ça voir ça, remarquer ces choses-là. Et donc, je me suis dit, ben pourquoi pas essayer cette voie-là? Peut-être que je vais avoir une révélation. Alors, je suis allée étudier un an. Parce que, comme je te disais tantôt, j'avais plus de gaz pour l'art. OK.
Ça en est un peu quand même, le design. Ben oui. L'intérieur, c'est beaucoup de l'art aussi.
Ben absolument. C'est une autre expression de... Oui, oui, c'est une façon de s'exprimer autrement, mais dans un domaine plus pratique, je dirais. Concret. Donc, j'ai fait un an au Cégep du Vieux-Montréal en design intérieur avec les jeunes de 18-19 ans. Et ça a été vraiment une super expérience, très bouleversante, très à se retrouver dans des classes, dans une classe, premièrement. Je suis dans la quarantaine, donc c'était complètement... ouais, ça a été toute une expérience que je raconte d'ailleurs dans mon spectacle théâtral. Il y a beaucoup d'humour à travers ça. Et j'ai fait un an. Le deck est 3 ans, mais à la fin de cette année-là et au cours de l'année, je me suis rendu compte que c'est quand même un domaine où si tu veux exprimer vraiment quelque chose, tu te retrouves un peu dans les mêmes paramètres que ceux que j'avais quittés comme comédienne, auteur-compositeur, artiste multidisciplinaire. Et je me suis dit, bon, ben là, tant qu'à avoir ce combat-là pour quelque chose qui est un plan B, finalement, je vais retourner au combat de mon plan A, que je connais, que j'aime, que j'adore, que je suis passionnée. Et, ben c'était, comme tu l'as dit, tout de suite après le deuil, le décès de ma mère. Donc, ça faisait partie de mon deuil et de mon questionnement identitaire. Et quand quelqu'un part à côté de toi, ta mère... ta source.
Les racines, ouais.
Tu te dis, OK, tu te retrouves au front et en avant, et tu te dis, OK, la vie a une fin, et moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire d'ici cette fin-là, peu importe où elle se trouve? C'est quoi mes choix et qu'est-ce qui motive mes choix? Est-ce que c'est l'accomplissement, l'argent, qu'est-ce qui va faire mon bonheur là-dedans? Qu'est-ce qui fait que moi, je me sens remplie? Comblée, heureuse. Alors, j'ai pris cette année-là complètement à l'écart, dans un total recul, pour refaire ces balises-là. Et j'ai enregistré mon album tout de suite. Je l'ai construit en même temps que les études et je l'ai enregistré tout de suite à la fin de cette année scolaire-là pour juste me dire non. Voilà mon amour principal.
Mais est-ce que tu as l'impression que tu fais ce métier-là pour d'autres raisons maintenant, après ces questionnements-là? Ou est-ce qu'elles sont plus claires maintenant parce que tu t'es posé la question?
Je l'ai fait pour les mêmes raisons qu'avant. Je le fais pour la même raison, mais c'est plus clair et c'est renouvelé. C'est comme si j'avais renouvelé mes vœux, si tu veux, avec un amour.
Un nouvel amour.
C'est ça. De dire, ah, écoute, je vais aller voir ailleurs un peu parce que je suis plus trop sûre qu'on s'aime tant que ça.
Et de se rendre compte que finalement, c'était ça.
Non, c'est ça. C'est, malgré les difficultés, malgré les côtés négatifs, et il y en a plusieurs... Ouais.
Et de plus en plus.
Oui, c'est pas facile. Mais malgré tout ça, si je fais le bilan, je t'aime encore, donc peut-être un peu plus même, parce que je t'accepte tel que tu es, mon métier.
Et en plus d'écrire, d'enregistrer tout ça, t'as fait le design de la pochette aussi, c'est pas tes dessins?
Oui, c'est mes dessins. Mais c'est ça, j'ai renoué avec le dessin cette année-là, justement... en design intérieur, parce que c'est beaucoup, beaucoup de dessins.
Il
faut en faire beaucoup et on apprend encore en dessinant. Et après vient l'aspect numérique.
Ouais. Mais à la base, c'est
les couleurs, c'est le trait de crayon, c'est les bases du dessin que j'ai adoré justement revenir à ça. C'était mes cours préférés, tous les cours en art. Encore une fois, encore une fois, tu sais... me disais, ah, dans le fond, ce qui m'intéresserait vraiment, là, c'est un deck en art plastique, mais où est-ce que tu vas avec ça, tu sais? Bah! tu sais, fait que c'est ça. Donc j'ai fait le en plus de designer ma cuisine, j'ai aussi designé ma pochette.
C'est un projet très personnel. Il y a des bouts, même si c'est une autofiction, il y a quand même des bouts très près de toi là-dedans. Oui. C'est Guido qui réalise l'album. Donc, c'est quelqu'un qui arrive avec un regard neuf sur tout ça. C'est comment se laisser une partie de sa vie dans les mains d'un réalisateur? C'est une grande confiance, un lâcher-prise qu'il faut avoir.
Il faut avoir à côté de soi un être d'exception. Et Guido en est un. Okay. Vraiment, c'est un gars...
Guido Del Fabro.
Guido Del Fabro, en plus, c'est là le nom. C'est un Italien, qu'est-ce que tu veux? C'est un bel Italien, Guido Del Fabro. Et Guido est un gars qui... C'est un violoniste. Okay. Qui travaille aussi avec... qui va aller avec son violon dans toutes sortes de sonorités, qui passe ça dans des machines, des... Il fait aussi du piano sur l'album, en plus de réaliser, de diriger ma gang, qui était la même gang que mon album précédent. Donc, c'est sûr que je suis allée chercher les musiciens que je connais. Ouais. Tu sais, mon Denis Ferland, avec qui j'ai joué pendant 7 ans.
Espèce de guitariste. Zone de confort.
Ah oui, c'était super important pour moi d'être entourée, qu'il n'y ait pas de barrière, tu sais, que ça soit direct, facile, tu sais, tout de suite dans l'ouverture. Puis Guido est un gars hyper sensible, très, très brillant, très musical, et non, il y avait ça, puis on a enregistré en deux, il faut dire qu'on a enregistré en deux, comment dire, deux périodes différentes, presque un an d'intervalle, la moitié... Okay. Mais avec toute la même gang, au studio B12 à Valcourt, donc on s'est retiré. On passe une semaine là, toute la gang, donc il y a un côté très amical et très... on sort, tout le monde est sorti de leur milieu, donc il n'y a pas de souper à faire.
Non. T'sais. Donc ça, ça apporte... liberté créatrice.
Oui, et de rapport à l'autre, ouais. Qui devient vraiment facile. Ouais. Ouais. Donc c'est ça, Guido, entre ces deux années-là, tout ça, on a appris à s'ouvrir, à se connaître, puis c'est ça, il y a une grande, grande, grande sensibilité, Guido, donc c'est vraiment, il est allé exactement chercher, et tous les autres gars, d'ailleurs, que les arrangements ont été créés en band, tous ensemble, on a enregistré pratiquement tous ensemble, même mes vocaux, mes lignes de voix sont presque toutes des one take, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas toujours de... On appelle ça le clic, qui est comme jouer sur le métronome. Donc, après ça... Donc, c'est ça, même mes voix, tu sais, tout était très, très organique, je dirais, naturel, bio. Finchoui. Et voilà, sans gluten.
C'est un peu... l'écriture, c'est un exutoire. C'est plus... peut-être pas plus facile, mais quand il y a des choses qui brassent, il y a quelque chose à sortir, quand ça va bien, il y a moins de trucs à sortir. T'es-tu senti brassé par l'année que t'as vécu, les années que t'as vécu? Et c'est ça qui a provoqué des chansons après le décès de ta mère? Est-ce que il y avait un besoin d'écrire des trucs parce qu'il y avait quelque chose à sortir de toi?
Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoin d'écrire sur toutes sortes de... Autant des plein de choses qui se sont pas retrouvées dans l'album. Des choses concrètes sur la maladie, des revendications, des tourments, des questionnements sur ce que ça fait aussi, comme par exemple sur l'album, il y a une chanson qui s'appelle « L'âme à l'hameçon » qui raconte... mais tout de suite après le décès, c'est ça, de me rendre compte que j'ai plus de mère, tu sais, sur la terre. Donc, que je dois prendre soin de moi maintenant.
Toi-même.
Moi-même, je suis ma mère maintenant. Et je suis une mère aussi. Donc, tout à coup, j'ai ce costume-là, tu sais. J'ai plus la grand-mère, la mère au-dessus de moi, moi, la mère, puis mes enfants. Non, je vais m'occuper de moi, puis mes enfants, ben c'est moi qui porte ce costume-là maintenant. Donc, cette chanson-là raconte ça. La maladie, il y a une autre chanson qui s'appelle La peur me quitte, qui est... ma mère a trouvé ça très, très, très... J'ai difficile d'accepter l'idée de la mort, et ça a été très difficile pour moi aussi de voir cette souffrance-là. Cette souffrance de quelqu'un qui dit « Non, moi, j'ai... » Ben, au départ du combat pour le cancer, c'est bien parce que tu as besoin de cette vitalité-là. Tu me bats, puis je vais l'avoir la maladie. Puis à un moment donné, quand c'est pas possible, ça, puis que tu dis « Ah, ça y est, j'ai perdu ou je vais perdre éventuellement. » Et d'être tellement angoissé par cette idée-là que finalement, toute ta joie, ma mère est tombée en dépression profonde et c'était pas du tout dans sa nature. Donc, il y avait comme quelque chose de très difficile à voir. Mais elle a finalement, au bout, tu sais, à la toute fin, moi, je priais pour que cette angoisse-là
s'en aille.
Tu sais, pour qu'elle ait cette libération-là pour elle. Tu sais, pour nous aussi, on veut tout le temps que notre souffrance cesse, là. Pour elle d'abord, puis je savais que ça serait, tu sais, qu'il y aurait une répercussion sur moi qui arrêterait de souffrir, de la voir souffrir. Et c'est arrivé, la peur me quitte, c'est un peu cette image-là de tout à coup, tu te libères de toutes tes peurs, puis ça vaut pour nous aussi quand on se libère de... ou qu'on accepte la peur, puis qu'on la voit telle qu'elle est, ben on avance plus facilement sans repère, je dirais. Même pour moi, de reprendre un chemin vers ma vie artistique, ou, tu sais, quelqu'un qui quitte un élément, tu sais, qui quitte un état de qui connaît déjà vers quelque chose d'autre, une autre ouverture. Ben, c'est ça, faut la peur, elle est toujours là, mais il faut l'apprivoiser. Donc, tous des thèmes comme ça, oui, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup inspiré. Tout ce que j'ai vécu avec ma mère, c'est une manière de... Ben, c'est presque thérapeutique écrire, dans le fond.
François Archambault, Éric Jean se sont joints au projet. François Archambault, qui est un auteur très connu. Éric Jean, qui travaille de la mise en scène sur plein de shows à Montréal. Pourquoi t'es allé les chercher?
Éric Jean, parce que c'est ça, là, on parle ici du spectacle qui accompagne mon album.
Que t'as fait au coup de cœur.
Oui, exactement, qui va sûrement être pris, pas cet automne-ci, l'autre automne, à Montréal et ensuite en tournée. Je reviendrai te voir à ce moment-là, en espérant que ça vienne à Sorel.
J'aimerais ça.
Ça serait le fun. Alors, c'est ça, je suis allée chercher Éric Jean parce qu'Éric Jean, c'est un metteur en scène de théâtre, mais qui est très, très, très... Il y a trois grandes forces. L'image, c'est un gars qui aime travailler avec l'image. Moi, je voulais avoir un côté visuel dans le spectacle. Je voulais qu'il y ait des projections, je voulais qu'il y ait une approche esthétique, parce que le show s'appelle design intérieur. Donc, j'avais envie de cette approche esthétique-là, mais pas esthétisante et froide. Ce qui m'amène au deuxième point, Éric est tout sauf froid. C'est un gars qui travaille avec l'acteur, avec l'être humain devant lui et qui en fait sa matière. Donc, il est capable de prendre ce que tu donnes en face de lui puis de modeler ça comme si...
De pas de modeler.
C'est ça. Donc ça, je trouvais ça super. Je n'avais pas peur de me dénaturer parce que c'était mon texte. Au contraire, j'avais envie... de quelqu'un qui est capable de prendre ce que je donne puis de bien le modeler à sa main, mais à la mienne en même temps. Donc, tu sais, il y a toute cette écoute-là, Éric Jean. Et il adore la musique. Il y a toujours, tu sais, un peu comme Jean-Marc Vallée va mettre de la musique partout dans ses films, dans son... Ben lui, Éric Jean, il va faire ça dans son théâtre. Dans ses mises en scène. C'est lui qui a mis en scène le spectacle des ballets de jazz de Montréal sur Leonard Cohen, qui tourne partout à travers le monde. C'est lui qui a mis sur pied au départ avec Martin Léon son premier spectacle, Les Atomes, que Martin a tourné beaucoup. Donc, Éric Jean a cette sensibilité-là envers la musique. Donc, c'était... Et je le connaissais déjà. T'sais, tantôt, on se parlait l'importance dans ce projet-là, c'était pas d'aller chercher « Oh my God, qui serait le meilleur à l'extérieur? » Non. C'était tout était dans la recherche. Qui, dans mon entourage proche, peut répondre le mieux possible à cette demande-là.
Ouais.
Et Éric Jean était tout destiné. Et François Archambault m'a dirigé dans l'écriture, donc a été comme conseiller dramaturgique. Ouais, de la structure. Moi, j'avais déjà écrit un collage sur il y a plusieurs années avec les textes de Serge Gainsbourg. Mais là, c'était ma première œuvre théâtrale vraiment de cette nature-là. Et c'est ça, c'était un défi d'inclure les chansons dans la dramaturgie. Et c'est ça, j'avais besoin d'un coach, si tu veux. Je voulais quelqu'un qui me lise et qui m'aide à avancer, à aller plus loin, à questionner mon matériel avant d'embarquer Éric, même avant... Donc, François, qui a une écriture très, très proche du quotidien.
Oui,
tu sais, François, c'est un gars qui... Et mon écriture dans cette pièce est très directe, parce que les chansons sont assez oniriques, poétiques. Donc, j'avais envie d'un ton très parlé, très direct, très... Pas dénudé de poésie, mais quand même...
La musique
même,
faisait déjà ce travail-là.
Ouais, était là. La musique qui m'accompagne aussi, ouais. Sans les paroles, et les chansons, c'était leur job. T'sais. Le reste de la job, c'était vraiment direct, donc un ton qui peut-être est proche, plus proche de François. Donc, c'est ça. François était un guide fabuleux et totalement généreux dans l'élaboration du projet.
On t'a vu dans District 31. Il n'y a pas tellement longtemps. Avec ta fille.
Avec ma fille!
C'était comment pour toi jouer avec ta fille? C'était qui faisait ta fille
super.
Dans la série?
C'était super! C'était comme un cadeau du ciel, là, tu sais. Ma fille...
Est-ce qu'elle veut faire ça dans la vie, d'abord?
Ma fille, Romane Lefebvre, qui s'appelle... elle ne sait pas encore. Elle n'est pas sûre que ça sera sa destinée totale, mais en ce moment, elle a le goût de faire ça. Et ça fait un bon moment. Elle a eu quelques rôles avant celui-là. Mais ça, je dirais que c'est son plus gros. Moi, quand tu étais plus jeune, je n'étais pas tellement ouverte à l'idée qu'elle auditionne pour des rôles principaux dans des séries. Donc, je refusais tout ce qui était...
qu'il y avait un peu plus de temps de tournage.
En fait. Oui, c'est ça. Je trouvais ça important qu'elle ait... ça me dérangeait pas qu'elle ait envie de jouer. Je trouve ça super, puis je vais toujours encourager ça, c'est sûr. Mais c'est important d'avoir une enfance relaxe, normale.
Et des études.
Oui, et des études. Et de ne pas être stigmatisée à l'école, tu sais, comme « Ah, tu es la Zoé dans telle émission, tu sais. » Fait que maintenant, elle est en secondaire 4, puis c'est ça. Là, maintenant, c'est ça, c'est ses choix. Elle, mais District 31, c'était parfait. C'était 3 jours de tournage, puis c'était son plus gros tournage quand même, mais ma fille, je dois avouer qu'elle est super bonne.
Mais c'était super bon, c'est simple.
Je la trouve super bonne. Tu sais, j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'admiration pour elle. Je la trouve naturelle.
Pour les gens, pour qu'on replace les gens, c'est l'histoire où on fait arrêter le jeune garçon qui aurait agressé ta fille, mais on apprend que c'est les parents qui sont pas fins.
C'est terrible. En fait, c'est terrible, mais c'est super intéressant parce que, pas que ce soit terrible, ce qui est super intéressant, c'est que la jeune fille, c'est son chum. Ils s'aiment. Il ne s'est rien passé de grave, mais ils ont couché ensemble. Et elle, ils ont commencé à sortir ensemble, elle avait 13, et son chum en avait 19. Et dans l'émission, là, elle a 14 et il a 20, et les parents, tout à coup... Donc, la loi dit qu'en bas de 18 ans, c'est seulement 5 ans que tu peux avoir, ce qui est une bonne chose, parce que sinon, c'est du détournement de mineur. Donc, eux, c'était 6 ans. Évidemment, Luc Dionne a choisi d'être sur la limite.
Ben oui, bien sûr.
Pour créer l'espèce de...
La discussion aussi.
La discussion de... Justement, il faut tracer une limite, et c'est celle-là. Mais là, eux, ils ne faisaient rien de mal, et les parents, eux, ont décidé. Puis je les comprends aussi, c'est sûr que c'est un bon écart, tout ça, mais en même temps, là, ça fait un an, c'est chiant. C'est pas correct, ils se sont mis ensemble... Pour ceux qui n'écoutent pas District 31, c'est ça, les deux parents se sont ligués pour faire arrêter le jeune homme. Et il y a un dossier criminel, il a été arrêté, mais évidemment, aux yeux de la jeune fille, le père a décidé de prendre ça sur ses épaules et il dit que c'est lui qui a dénoncé. Donc, la jeune fille ne sait pas que ses parents sont de connivence.
Oui, parce que toi, tout le long, t'es la bonne maman qui protège sa fille.
Oui, mais en fait, qui dit, ben pauvre toi, puis, ben oui, je comprends, Maxence, mais elle sait pas que j'étais avec le père, que tout ça est organisé, et je veux dire, si jamais, on sait jamais si nos personnages reviennent ou pas.
Parce qu'on entend parler de votre histoire tout le temps, chaque semaine, ça ressort,
et c'est presque. Parce que Maxence s'est fait battre en prison, et maintenant, c'est ça, qu'est-ce qui va se passer quand... il va sortir il va avoir fait sa peine, ou si la jeune fille apprend ça, je veux dire, pour moi, ça serait comme la révolte si j'apprenais que mes parents avaient fait, puis que je sais pas les séquelles de Maxence, qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais ça soulève une question quand même, et c'est assez intéressante, je trouve, parce que sur cette limite-là, tu sais, sur... ouais, il faut tracer une ligne, mais en même temps, dans ce cas précis-là, c'était un peu... Il y a eu un cas comme ça, je me rappelle, à Saint-Hyacinthe, il y a quelques années, où c'était un couple qui s'aimait et tout, puis le jeune garçon a été dénoncé. Je ne sais pas par qui, là, je ne me rappelle plus exactement, mais il avait été jugé coupable. Et il y a quelque chose de terrible là-dedans en même temps, là, parce que la jeune fille, elle se sentait pas abusée. Et...
Je sais pas.
Probablement. En tout cas, dans le cas de ma fille, dans District 31, il n'y avait pas d'abus. En tout cas, pas à ce que je sache.
Mais c'était comment pour toi jouer avec ta fille?
C'était formidable.
Est-ce qu'il y a un beau émouvant, tout ça?
Ben oui, c'est sûr que c'était
quand
émouvant.
Quand on dit action, quand ben, ça part, c'est ta fille qui donne ta réplique.
Puis c'est facile. C'est facile parce que c'est comme si on se parlait pour vrai, tu sais, à la maison, c'est une drôle d'anecdote, c'est qu'il y avait une scène où on était un petit peu plus en conflit, et on répétait notre texte à la maison, et mon fils a entendu ma fille dire quelque chose, je me rappelle pas exactement ce qu'il a entendu, mais ça voulait dire « attends que je parle à ton frère ». Mais il n'a pas entendu la bonne phrase, mais c'est ce qu'il a entendu « attends que je parle à ton frère », mais il pensait que j'engueulais vraiment sa sœur. Donc, lui, il s'est dit... Là, il s'est mis à avoir le cœur qui débat, puis à se dire « oh non, qu'est-ce que j'ai fait? » Puis là, il est rentré en douce dans la chambre de ma fille. Puis là, il nous a vus assis avec nos textes, puis il a fait « ah, vous répétez, OK, là, j'étais super stressée, j'étais là... Maman est en train d'engueuler Romane.
Je suis impliquée.
Qu'est-ce que j'ai fait? Fait que tout ça, tout apprendre nos textes, les répéter ensemble, être sur le plateau, tout ça, là, s'en aller vers le plateau dans le taux, les discussions qu'on avait sur le sujet aussi. On a eu des discussions sur ce sujet-là. Ouais. Être tout ça, là, tu sais, à refaire, là, demain matin, je serais de bonne humeur au bout, là.
L'année prochaine, c'était 25 ans de carrière. T'es sorti du cégep de Saint-Hyacinthe en 1995.
Arrête, Luc, ça va de bon sens.
Ben, je me trompe pas dans les dents.
Ben non, tu te trompes pas, t'es trop bon recherchiste.
Ça te fait quoi?
Oui.
Parce que rapidement, la télé est arrivée dans ta vie. T'as joué dans Majeur vacciné à la sortie.
Tout de suite en sortant d'école, oui.
Quel bilan tu fais de 25 ans? On a parlé des difficultés tout à l'heure, mais tu es quand même contente du parcours des 25 ans?
Ben oui, en fait, c'est on peut pas juger un parcours, tu sais, c'est que ça serait comme, à moins de vraiment avoir fait des choses que tu regrettes.
Oui, ça c'est sûr.
Mais s'il y a pas de regrets, il y a pas de jugement à porter, c'est sûr que, tu sais, c'est un parcours qui était, écoute, comment je pourrais le qualifier? En fait, tous ces obstacles-là m'ont permis toujours d'ouvrir d'autres portes et d'être une artiste et un être humain, d'ouvrir les portes de l'être humain aussi. Comme je viens de dire, j'ai deux enfants et j'aime, et ils sont plus vieux maintenant, ils sont au secondaire, ils s'en vont, tu sais, ils commencent à...
Il y a presque un début de vie adulte. Là.
Oui, ouais, ça c'est ça. Bien, puis moi, je retrouve aussi ma liberté. Oui,
tout à fait.
Et j'ai beaucoup investi aussi dans ma famille, j'ai investi, tu sais, pas juste dans ma carrière, j'ai investi un peu, tu sais, dans toutes les sphères de ma vie. Donc, je me considère comme une personne chanceuse. Avec, parce que tous les éléments qui se sont installés sur mon chemin, dans le fond, l'important, c'est de les voir, de les prendre, puis de faire quelque chose avec, chose que... Moi, je suis une créatrice, j'aime créer. Donc, même en sortant de l'école, tu sais, je me rappelais de ça l'autre fois, quand j'étais dans majeure et vaccinée, j'avais 2 ou 3 projets d'écriture en même temps. Tu sais, j'ai toujours été appelée par la création. C'est ce que j'aime faire. Puis j'aime travailler en équipe, j'aime... Donc, j'ai réussi à travers toutes les sphères de, tu sais, du coaching, l'enseignement, de la chanson, de l'écriture, des collaborations, du théâtre, du cinéma, de la télé. Tout ça fait un portrait qui me ressemble dans le fond. Donc, oui, je suis fière, je suis contente de mon parcours. Mais je déteste les fêtes.
Donc, 25 ans.
Mais c'est ça, c'est une belle fête.
Moi, je trouve 25 ans.
Je sais, mais même ma fête à moi, je suis tout le temps un peu... Ah, je ne tripe pas tant sur le temps qui passe, tu sais. J'aime le jour, le jour. J'aime ça, tu sais, comme... J'aime ça, j'aime le quotidien, quand même. Et j'aime le jour, j'aime me rapprocher du présent. J'aime pas trop regarder en arrière. Je regarde en avant, mais pas trop loin non plus. Je suis pas... Ouais, c'est ça, j'ai un rapport avec le temps particulier, mais peut-être que je le soulignerai pareil, le 25 ans.
Si on souligne 25 ans de carrière, c'est parce qu'il y a eu une carrière.
Oui, ah, ben oui, tout à fait, c'est vrai, t'as raison.
Parce que ça pourrait être 25 ans de la fin de tes cours sans qu'il y ait eu carrière.
Absolument. Mais sûrement,
c'est une façon de le voir positif, la fête.
Bien sûr. Mais je pense qu'il y a toujours à fêter. Si c'était, oui. Si ça avait été ça, j'aurais fêté 25 ans de d'autres choses. Oui,
non, c'est
parce
sûr,
que
c'est sûr.
D'autres choses se seraient passées, tu sais. Mais oui, c'est, en fait, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est surtout, c'est important de reconnaître, de se reconnaître. Et quand on regarde le parcours qu'on a fait... que ce soit familial, dans un couple, dans une vie, dans un chemin artistique, ça nous permet de peut-être trouver ça beau, puis peut-être se féliciter, puis peut-être, tu sais, aussi avoir un regard, positif. En fait, c'est une manière de se célébrer. Peut-être que je me célèbre pas assez. Je vais penser à ça, peut-être, célébrer mes 25 ans de carrière. Parce que c'est pas parce que je suis pas fière, non, non, c'est un beau parcours. Puis nommer ce qu'on a fait aussi, des fois, on peut être surpris.
Ah ouais.
Tu sais, de faire, waouh, OK, j'ai quand même...
Quand on les additionne.
Oui, c'est ça, tu sais, je... Comme toi, si t'enlignais toutes tes entrevues, tu sais, tu ferais, hey, OK, t'es des nombres.
Ah,
OK. Fait combien de temps, toi?
17.
Quand même. Tu t'approches du 20. C'est aussi, c'est une fête.
Oui, oui. Brigitte, si les gens veulent te suivre, si on veut voir les prochains shows qu'il y aura, on va sur le web. Tout est là.
Tout est là. Brigitte Saint-Aubin, SAINTAUBN.com. Là, il n'y a pas encore de show d'inscrit, mais ça va venir. Parce que c'est ça, moi, je travaille sur le show, comme j'ai dit tantôt, puis ça va être...
L'année prochaine. Pas,
ouais, c'est ça, parce que je tiens à jouer dans des théâtres, donc il faut s'inscrire dans une saison théâtrale, parce que c'est un spectacle
qui...
ouais, c'est ça, les saisons sont déjà pleines pour l'année prochaine, mais là, on travaille sur l'autre saison, puis après, on pourra partir en tournée, mais d'ici là, j'ai un autre projet de J'ai un autre beau projet pour l'automne qui est complètement différent, là. Je sais pas trop, je n'ai pas parlé encore, donc je sais pas trop si...
As-tu le droit?
Ben, c'est moi qui me l'accorde, là, le droit ou pas, là, mais ça s'enligne vraiment pour arriver, donc je peux même le dire. Tu seras la première personne à qui je le dis.
Super, merci.
C'est un projet avec Éric Jean, toujours, et Daniel Robillard, qui est un photographe, ancien photographe de mode, et qui fait de la vidéo maintenant. Et Éric Goulet, à la musique, et moi, la troisième personne reste à déterminer. C'est un projet Tom Waits.
Ah, wow! Okay.
Alors, je vais chanter...
Tom Waits par une voix de fille?
Tom Waits, exactement. Et le tout sera accompagné et d'un film, dans le fond, de courtes histoires, 15 courtes histoires.
Pas sur Tom Waits.
Visuellement, histoires... dans le fond,
liée aux chansons.
Notre musique, ouais, okay, sera la trame sonore live, bien sûr, de ce film de Éric Jean et Daniel Robillard.
C'est une bonne idée.
Sur les chansons de Tom Waits. Alors, notre playlist est déjà faite. On a déjà commencé à travailler, Éric Goulet et moi. Éric va en chanter quelques-unes, bien sûr. Donc, c'est
et
ça,
c'est
on va présenter...
Et c'est rare qu'on rend hommage à Tom Waits, c'est ça?
Oui! Et moi, je l'adore. C'est
marqué,
écoute,
l'histoire de
le
musique,
nombre de chansons, de pièces que ce gars-là a écrit et sa plume. Je veux dire, c'est un grand, grand poète, Tom Waits. Et en même temps, il y a une écriture du quotidien dans certaines pièces vraiment le fun. C'est un conteur. Il raconte des petites histoires de personnages souvent insolites, inusité, ouais, glauque, particulier. Lui-même est assez particulier, oui, et effervescent. Là, son, il a un cerveau en ébullition. Mais c'est un grand, grand poète. Et ses chansons, moi, c'est sûr que les paroles, ça me touche beaucoup, autant en français qu'en anglais. C'est quelque chose qui me rejoint et qui est important pour moi. Donc, c'est ce qu'on va mettre aussi de l'avant dans le spectacle. C'est sûr que le fait que ce soit chanté par une femme, ça change tout de suite, tu sais, comme le grain de la chanson.
Ben, clairement, parce que la voix était tellement spéciale, celle de Tom Waits, que c'est sûr qu'en allant ailleurs, on change complètement.
C'est très, très... c'est ça. J'ai juste à apprendre la chanson, j'ai rien à faire, puis
c'est déjà changé.
C'est déjà une interprétation différente. Ensuite, ben, comme je dis, tu sais, les paroles sont importantes pour moi, donc de mettre de l'avant ces les mots de Tom Waits, ben ça dirige ça dirige les arrangements aussi d'une certaine manière. Et donc c'est ça, réinterpréter Tom Waits, c'était un rêve qui m'habitait depuis longtemps et que je mettais de côté. Et là, c'est ça, comme mon spectacle, il ne sera pas présenté tout de suite, et que j'ai envie d'explorer les chansons de quelqu'un d'autre et un univers. Tu sais, c'est sûr que si tu prends plein d'autres chansons de plein d'autres chanteurs, tu vas explorer
plein d'univers,
mais de plonger
d'entrer dans un particulier,
dans un univers que j'aime. Totale, ouais, c'est ça. Puis... il y a des très, très belles mélodies aussi. Tu sais, des fois, avec sa voix très, très rauque des dernières années, on entend moins, des fois, la ligne mélodique. Ouais, tu sais, aussi, il parle beaucoup, puis il est très marmonneux. Mais en plus d'être un grand poète, c'est vraiment un grand mélodiste. Et c'est ça que j'ai envie de... En même temps, s'approprier des chansons de quelqu'un d'autre, c'est presque une étude aussi. Tu sais, tu vois comment il construit ses chansons, où est-ce qu'il va avec ses accords, où est-ce que... Tu sais, chose que moi, étant pas une musicienne qui accompagne d'autres, c'est rarement un exercice que je pratique.
Ouais, je comprends.
Donc là, j'apprends ses chansons. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Puis là, on écrit des scénarios, justement. On a commencé à écrire des mini-scénarios pour les 15 courts-films. Fait que voilà, mais c'est ça, j'en avais pas parlé. On va peut-être faire une petite campagne d'autofinancement et en plus des demandes d'aide financière pour le film, surtout. Mais voilà, écoute, c'est un projet qui m'habite présentement et que j'ai vraiment envie. Ça va être présenté à l'automne, dans le mois de novembre, au ministère.
OK.
Ouais.
À suivre, donc.
À suivre, ça va être inscrit sur mon site. Alors, si vous voulez avoir des nouvelles de ça, même si c'est ça que présentement, vous n'aurez pas de date de rien, là, mais inscrivez-vous sur la liste d'envoi et vous allez avoir accès. Une fois de temps en temps, on n'est pas très... n'est pas très harcelant, donc juste, vous allez avoir les nouvelles quand ça sera le temps.
Brigitte, merci d'avoir été là aujourd'hui.
C'est un grand plaisir, c'est toujours un plaisir toujours de venir te rencontrer, Luc.
Ben, merci beaucoup.
À bientôt.
Ben oui.